Mais pour l'instant, on va débriefer ce qui s'est passé au Stade Vélodrome. La victoire de l'Olympique de Marseille, 4-1. Alors d'abord, messieurs, on a eu deux mi-temps très très différentes. Une complètement folle et une où on a failli un petit peu s'endormir, Marc Libra.
Oui, on a eu la première période où l'Olympique de Marseille a su faire la différence. Mais pour revenir un petit peu sur la chronologie, on a cet exemple de bus qui arrive un petit peu à la bourre, l'équipe qui arrive en retard. Le match est un petit peu décalé. Marseille qui prend ce but très rapidement. Et grâce pour moi à un joueur qui a su faire la différence, c'est Alexis Sanchez ce soir qui a été l'élément moteur numéro 1 de cet Olympique de Marseille, qui a relancé l'OM parce que vous êtes mené chez vous, vous êtes à huis clos, vous perdez 1-0, lui va pas lâcher, Ignacio va essayer de ce qu'on appelle l'emmancher, lui faire du mal quand il va au pressing, il le rate, il esquive et il continue son action et c'est lui qui va mettre Adam dans une situation très compliquée qui se disait peut-être ah ben on vient de marquer, on est peinard. Et en fait, c'est lui qui va tout modifier, qui va mettre cette équipe de Marseille dans le sens de la marche, c'est un joueur comme l'a dit Jeff, il a 34 ans. Quand vous avez un joueur de cette trempe-là qui finit avec le maillot trempé et qui donne énormément pour l'Olympique de Marseille, vous êtes obligé de suivre. Face à Francfort, on avait vu Alexis Sanchez qui faisait les efforts et deux joueurs qui étaient Gerson et Payet qui n'allaient pas. Là, on a eu deux joueurs qui étaient derrière lui, qui s'étaient arrêtés under, qui sont allés au charbon, qui sont allés presser très très haut. Et ça a fait toute la différence. Sur le quatrième but, encore une fois, c'est lui qui va rentrer, qui va centrer fort et Mbemba qui va marquer ce but. Donc la victoire, elle est belle, mais en tout cas, avec Alexis Sanchez qui est un leader, ils ont peut-être trouvé un patron de cette équipe. En tout cas, ils l'ont trouvé ce soir sans le public.
Nicolas Touriol, Alexis Sanchez, celui qui peut faire la différence à l'OM.
Il est payé pour ça, il a été recruté pour ça surtout. Mmh. En fait, Marseille en Ligue des Champions, c'est l'histoire d'un désastre depuis plusieurs saisons. Avant ce match-là, c'est 16 défaites sur les 17 derniers matchs. Il y a eu la victoire contre l'Olympiakos.
Cette statistique qu'on n'a pas arrêté de répéter, évidemment.
Mais oui, parce qu'elle est là, elle est réelle et elle en dit long sur toutes les difficultés qu'éprouve l'OM en Ligue des Champions. Donc le recrutement passe par Sanchez et ses 66 matchs de Ligue des Champions ce soir. Je pense 27 ou 28 pour Mbemba. Voilà, ce sont les deux joueurs qui connaissaient vraiment la compétition. Un peu bailli avec Manchester United, mais voilà, les trois joueurs qui connaissent et maîtrisent un peu l'exigence de cette compétition-là. Donc Sanchez fait la différence, mais on peut parler du jeu, de ce que Marseille a réussi à faire presser haut. Le Sporting, c'est une équipe qui prend des risques dans sa relance. On l'a vu lors des deux premières journées face à Francfort et à Tottenham. Et ce soir, le gardien Adan, il prend un risque, comme les autres défenseurs. C'est une équipe qui part de très bas et qui va chercher à relancer, à jouer court. Mais cette prise de risque-là, elle a était fatal puisque l'OM est revenu. Adan était sorti de son match, le gardien du Sporting à ce moment-là, et ça a permis à Marseille vraiment de changer les choses et de casser cette spirale-là, de marquer enfin dans le jeu et de gagner en Ligue des Champions. Ça rapporte tellement un succès comme ça, ça va faire un bien fou.
Oui, c'est ça, Patrick Juliard. Enfin, c'est cette victoire qui était tellement attendue. On se dit que c'est quand même dommage que c'était devant un stade vide. Là.
Ouais, mais je pense que l'OM, ça, ils le regretteront peut-être plus tard. Mais ce soir, ils sont très satisfaits d'avoir enfin brisé un peu ce signe indien, cette série terrible. Le stade vide, oui, c'est toujours dommage. Mais enfin, je pense que tout le monde aurait signé des deux mains pour que le scénario de ce match se produise. Parce que vous êtes mené dès la première minute de jeu.
53 secondes exactement.
Dans les têtes, ça doit être terrible parce qu'on se dit la malédiction continue, décidément on n'y arrivera jamais, décidément on a le maximum de... tout le contraire de la réussite, c'est la poisse maximum contre notre équipe. Et finalement, l'OM a su réagir en équipe, là aussi. Alors Alexis Sanchez, moi je ne suis pas persuadé que ce soit le meilleur avant-centre possible parce que pour moi ça n'est pas un avant-centre. Mais en revanche, il est en phase avec les exigences de Tudor sur le plan de la débauche d'énergie, sur le plan de la course, parce que l'OM, c'est une équipe qui a, en gros, le système de Tudor, il est assez simple, c'est on agresse l'adversaire par la course et par les efforts. Et ça, effectivement, si vous mettez Payet ou Gerson, ça ne marche pas, parce que ce ne sont pas des joueurs et qui se distinguent par leur volume de course. Ils ont d'autres qualités techniques, un toucher de balle, mais ce n'est pas ça. Et quand vous avez un Harit qui se bat comme il s'est battu ce soir, il joue presque pour deux sur ce match. Guendouzi, c'est pareil, on l'a vu quand il a essayé de tirer un coup franc, c'est pas le meilleur pied de la Ligue 1 au milieu de terrain, mais il a des qualités de... Il a une capacité à se démultiplier, à être aux quatre coins du terrain. Là, en plus, quand vous êtes en confiance contre une équipe qui perd les pédales, on peut un peu, justement, en emmagasiner de la confiance encore plus. que le résultat le laisse penser. Donc tout bénef pour l'OM ce soir. Le seul petit bémol, si on doit en chercher, c'est que la deuxième mi-temps n'est pas aussi bonne que la première dans le contenu et que certains des joueurs qui sont entrés n'ont pas marqué de points. Je pense à Caboré. À droite, si Klaus devait être absent quelque temps, il a encore des progrès à faire pour le faire, pas oublier, mais au moins compenser un tant soit peu son absence.
On va parler de tout ça, de Klaus notamment, tout à l'heure. Mais Grégory Schneider, les Marseillais, ils sont quand même costauds dans leur tête parce qu'ils auraient pu sombrer après avoir pris un but à la 53e seconde, là, comme ça, en étant à huis clos chez eux.
Je pense que si on se repenche sur le match et sur le déroulé du match, ils n'ont pas tous été costauds. Je crois que c'est Marc ou mon confrère, c'est les joueurs expérimentés, c'est Mbemba qui a montré la voie, c'est Sanchez qui a montré la voie, c'est les joueurs qui sont à température de Ligue des Champions qui ont montré la voie. Et on a vraiment l'impression... Alors, après, c'est aussi l'histoire d'un match, c'est aussi un gardien qui craque en 10 minutes. Mais on en reviendra toujours au fait qu'à un moment donné, c'est Sanchez qui a fait ce pressing-là et c'est Bemba qui a tiré un peu toute l'équipe vers l'avant. Et ça dit quand même un truc fondamental qui est qu'indépendamment de la qualité qu'on peut prêter à des joueurs, ça ne s'invente pas. Vous ne pouvez pas être moteur dans ces moments-là parce qu'au bout de 5 minutes, ils étaient quand même très mal. Ils se faisaient trouer au milieu de terrain sur toutes les sorties. Et c'est quand même passé par des joueurs qui ont un CV, qui ont un vécu, moi c'est un petit peu ça que je retiens, c'est clair. Qui que vous soyez, ou quelles que soient vos ambitions, vous êtes quand même obligé de passer par des joueurs qui ont un peu cette habitude. Et Longoria en avait parlé avant le début de saison. Je me souviens très bien de ça. Il avait dit voilà, il va quand même falloir que certains joueurs connaissent le... Moi, je suis très étonné par Mbemba parce que je trouve qu'il a des qualités antinomiques. C'est-à-dire que c'est un arrière central qui est dur, qui est rapide. C'est un mec qui dribble. Alors
même temps est bon de la tête et voilà, imprenable dans les airs.
Sur le quatrième but, il se la ramène de la semelle, il fait quand même une sorte de râteau, enfin qui appartient à, si Payet l'avait fait, ça aurait pas départi sa panoplie. Je trouve que c'est vraiment un joueur un peu contradictoire, un peu étonnant. Il a quelque chose. Ouais.
Jean-François Pérez, l'expérience, c'est ce qui a fait la différence pour les Marseillais, là. Enfin, l'expérience de certains joueurs ce soir, c'est eux qui ont fait la différence.
Bah, c'est un match bizarre à analyser de toute façon parce que ça, tout nous a semblé tellement irrationnel dès avant le coup d'envoi. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous dire que le Sporting Portugal est sans doute en partie au moins responsable de son retard ce soir pour son arrivée au stade. Manifestement, il n'avait pas demandé d'escorte avant d'arriver au stade Vélodrome. Ça a causé donc le premier retard.
Ouais, c'est important.
Exactement. On n'est pas obligé dans les compétitions européennes de demander une escorte et manifestement, il ne l'avait pas fait pour une raison qui m'échappe un petit peu. Là, ensuite, non seulement il y a eu ce retard à cause du bus, mais en plus, ils ont vraiment tardé à sortir du vestiaire. Ça a occasionné un retard supplémentaire de quelques 5 minutes qui a rendu fou furieux d'ailleurs les Marseillais. Alors je ne sais pas si ça a joué dans le début de match catastrophique de l'Olympique de Marseille, mais toujours est-il que ça a contribué en tout cas à exciter un petit peu tout le monde et il y a eu un nombre de fautes quand même assez élevé ce soir. Alors vous parliez de l'expérience, je suis d'accord avec vous. Dans ces cas-là, il faut savoir garder la tête froide et il y a plusieurs joueurs qui ressortent au sein de cet Olympique de Marseille qui a vraiment eu de la force de caractère pour renverser cette situation contraire. Il y a en effet Alexis Sanchez qui se bat pour aller obtenir ce contre absolument décisif parce que l'OM était au plus mal au moment où Alexis Sanchez parvient à relancer ses couleurs sur ce but-là à la fin du premier quart d'heure. Donc le Chilien montre que oui, dans un rôle, on va dire, qui n'est pas forcément flamboyant, mais dans un rôle qui est celui d'un exemple. Voilà, il est celui qui a permis à l'OM de revenir dans ce match et a emporté tout le monde avec lui. Chancel Bemba, je suis entièrement d'accord avec vous. Il s'est présenté en conférence de presse hier. Il a eu des mots très clairs à sa façon pour dire que ça allait être une guerre, qu'il fallait oublier absolument Tottenham et Francfort et que lui-même allait se charger de montrer le chemin à ses coéquipiers. Ça a été le cas défensivement et offensivement parce qu'il a mis un but quand même d'une grande finesse technique pour clore le score ce soir. Et puis je voudrais quand même aussi souligner la performance d'Amin Harit parce qu'il est revenu. Vous savez qu'il était en prêt la saison dernière. C'était pas évident qu'il revienne pour diverses raisons. Il est revenu à la fin du mois d'août, l'international marocain de Schalke 04. Et il est revenu pour faire une vraie carrière, pour passer plusieurs saisons ici et s'installer comme successeur de Dimitri Payet. Et si vous regardez bien le match ce soir, vous vous rendrez compte qu'il a des qualités d'un Dimitri Payet moderne, peut-être un peu plus vertical. Mais en tout cas, ce soir, il a été formidable.
Alors, Amin Harit, homme du match, Patrick Julia.
Ah non, mais je suis d'accord avec Jean-François sur la prestation et la qualité du match d'Amin Harit, totalement. Mais pour moi, c'est pas vraiment le même registre que Dimitri Payet. C'est un joueur qui court beaucoup plus. Amine Harit, c'est un joueur qui couvre beaucoup plus de terrain que Dimitri Payet. C'est pas, il n'y a pas ce côté numéro 10 créateur de but qu'a Payet, mais il y a d'autres qualités et je pense qu'elles correspondent beaucoup plus à ce qu'attend Igor Tudor. Et c'est sûrement pour ça qu'il préfère nettement le Marocain à Payet.
Marc Libra.
Mais pour moi, ce sont les deux mêmes joueurs parce que c'est des joueurs qui disparaissent. C'est-à-dire que ça peut être dur, des fois ils sont intermittents.
On l'a bien vu quand même ce soir, Harit, ce soir.
Ah, mais Marc. Non, mais là, il n'y a aucun problème de ce soir.
Disparaissent dans une saison.
Mais ce ne sera pas forcément le cas tous les soirs.
Saison. On ne va pas se gargariser en disant que Harit est le meilleur joueur du monde. Il faut être sérieux. Il a des absences. Des fois, il est bon. Des fois, il n'est pas bon. Il finit très bien à l'Olympique de Marseille. Quand ses débuts, c'est un petit peu plus compliqué. J'attends de voir Amine Harit sur une saison complète. S'il est capable de faire une saison complète, l'Olympique de Marseille va en profiter. Et Dimitri Payet, c'était son problème depuis tout le temps. Donc aujourd'hui, on va voir, c'est très très bien. Est-ce que Harit est tiré par Alex Sanchez qui va faire le pressing tout le temps? Que Under est un joueur aussi qui n'est pas à avoir d'effort? Donc c'est très très bien. Mais non, après, comme je vous dis, il y a un match encore important à jouer samedi. Il y a d'autres échéances qui vont arriver. Il faut tenir ce niveau-là.
Ne pas s'enflammer, non, Marc Libra.
Pour l'homme du match aujourd'hui, c'est celui qui casse les reins du gardien, c'est Sanchez. C'est celui qui le sort.
Alors
du match.
Vraiment,
c'est
vraiment pas qui tous fait d'accord du... avec non, non, sur l'homme du match.
Ça tourne là, puisque là le gardien est
détruit. On perd le gardien à ce moment-là, et 10 minutes, il est perdu.
Et pendant 10 minutes, il est perdu, et les 3 buts viennent plus ou moins de ça. Donc c'est Sanchez. Or, j'étais le premier à avoir quand même quelques doutes, parce que c'est un joueur qui n'a pas mis plus de 10 buts dans une saison depuis 6 saisons. Vous pouvez regarder, il n'a pas mis plus. Alors, des fois, il est blessé, des fois, il est remplaçant.
Mais il va casser l'ambiance.
Il avait surtout un temps de jeu en chute libre.
Oui,
mais bon, s'il était si fort ou si c'était une machine à marquer, son temps de jeu n'aurait pas été en chute libre.
Là, il prend du rythme.
Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas paramétrer que les buts. Voilà. C'est-à-dire que quand un joueur comme Sanchez arrive, il apporte des petites choses, il y a un impact sur le vestiaire, il y a une gestion des moments compliqués, il suffit pas, contrairement, parce qu'on est dans un monde où...
Mais là, c'est ce qui s'est passé.
Oui, voilà, mais on est dans un monde où on nous résume systématiquement un attaquant par ses stats, voilà. Et Alexis Sanchez, ça va quand même un peu plus loin. C'est un leader d'effort.
Attends, tu le
c'est
fais.
Un, c'est un... Non, non, mais justement, c'est... Non, mais c'est pour en montrer la limite.
D'accord. Ah ben
c'est-à-dire
oui, c'est clair.
C'est...
Moi, oui.
Voilà, c'est-à-dire que tu peux pas... Un joueur de 34 ans peut apporter bien d'autres choses que ce genre de... il n'est pas réductible à des chiffres, voilà. Donc bah là, je pense qu'il fallait dire ça ce coup-là.
Il a montré l'exemple là, Nicolas Touriel, ce soir.
Oui, et c'est une vraie réussite et une vraie satisfaction pour moi. Je vais aller dans le sens de Grégory, mais je l'attendais pas là parce qu'en fait, Alexis Sanchez, j'ai le souvenir de lui à Arsenal, son arrivée et tonitruante formidable, 3 mois de séduction, et puis après ça a été plus compliqué. Et pour l'instant, on est à 2 mois et demi. Donc Alexis Sanchez, je l'attends, voyez. Allez, début novembre pour la dernière journée de la phase de groupe. Et puis ensuite en janvier, en février, quand la phase de séduction sera passée, qu'il faudra courir autant, que Tudor lui demandera les mêmes efforts et que lui devra continuer. C'est un joueur qui a prouvé très vite, mais qui a eu du mal à confirmer derrière. Et j'ai le souvenir de lui à l'Inter ou à Arsenal. Au Barça, c'était différent, c'était un autre cadre. Donc, c'est pour ça que je suis séduit ce soir. Est-ce que je suis optimiste sur Sanchez à Marseille? On verra plus tard.
Il va pas être ennuyé par la Coupe du Monde, quand même, lui.
Non.
Donc ça c'est quand même... c'est quelque chose qu'il faut paramétrer, parce que tout le monde repart en préparation physique, tout le monde repart en...
Donc voilà, ça va tout changer.
Ça va tout changer.
Alors moi, j'ai peut-être une autre idée d'homme du match, et je vais m'adresser à Gary De Jesus, qui est en ligne avec nous, notre spécialiste du football portugais. Bonsoir.
Bonne nuit.
Est-ce que l'homme du match, c'est pas Adan, le gardien portugais?
C'est ce que j'allais vous dire, par le prisme du Portugal et des médias portugais. Là, on parle beaucoup de Antonio Adan, comme vous pouvez l'imaginer. C'est la soirée cauchemardesque du gardien espagnol. Il ne faut pas l'oublier qu'en 23 minutes, il a fait 2 erreurs de relance grotesques, dont surtout la première qui était suite au pressing d'Alexis Sanchez, comme vous l'avez déjà bien dit. Et ensuite, c'est cette sortie de la main qui laisse le Sporting à 10. Et c'est un peu difficile parce que le début du match du Sporting était intéressant. On voyait Edwards et Francisco Trincao qui, sur le but de Trincao, qui était magnifique d'ailleurs, qui sur le côté droit, qui ont fait beaucoup de mal à Marseille. Et après, c'est vrai que cette pression de Marseille sur cette défense jeune du Sporting, il ne faut pas oublier qu'il y avait des absents aussi notables dans cette équipe. Sébastien Coates, le capitaine emblématique du Sporting, n'était pas là ce soir. Pedro Porro, le latéral droit, qui est aussi un joueur très important dans la sortie de balle, n'était pas là ce soir. Donc il y a des éléments qui expliquent ce début de match après compliqué après la sortie de Adane. Mais malgré tout, le Sporting aurait dû montrer un autre visage. Et c'est vrai qu'après tous ces éléments mis bout à bout, ils ont eu beaucoup de mal à sortir de ce pressing, beaucoup de mal à créer du jeu. Ugarte et Morita au milieu étaient très esselés. Et ça s'est senti tout au long de la rencontre.
Mais ils sont écroulés mentalement aussi. Hein,
c'est ça. De toute façon, le Sporting, c'est un club qui est habitué à se prendre des valises hein, quand ça va mal. Déjà la saison dernière, en phase de groupe, ils avaient perdu 4-1 contre l'Ajax, puis ensuite 5-1, et malgré tout, ils avaient réussi à se qualifier. Donc ce système de Ruben Amorim, c'est un système qui peut, quand ça va mal, permettre de se prendre beaucoup de buts, et ça arrive assez souvent pour le Sporting quand ça va mal. On a vu aussi quand ils ont perdu 3-0 à Porto en début de saison. C'est quelque chose qui peut arriver, mais là, à ce point-là, surtout ce qui s'est passé avec le gardien, l'ancien gardien du Real Madrid, Antonio Adan, c'est assez rare de voir une prestation de gardien à ce point-là, et je pense qu'il faut la souligner pour ensuite expliquer la suite du match. C'est bien sûr que Marseille a fait un gros match, un gros pressing, et a mis le Sporting en difficulté, mais ce n'est pas le visage du Sporting qu'on a l'habitude de voir, et je pense qu'ils vont revenir revanchards pour, on peut dire, hein, le match retour de ce match à Lisbonne la semaine prochaine, avec Pedro Porro, avec Sébastien Coates. J'imagine qu'ils nous montreront un autre visage.
Marc Libra ?
Non, mais c'est Jorla Coates qui joue en défense centrale. Ignacio n'aurait pas forcément joué. C'est injuste qui est arrivé. Enfin, c'est un petit peu juste. Mais il faut se rendre compte de l'importance quand vous avez votre gardien de but qui est une des références et qui est votre capitaine. Tout se passe bien et puis il fait cette énorme boulette. Et là, tout le monde se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il a fait ça ? Et ça va aller tellement vite parce que Marseille, avec son pressing très haut, qu'ils ne vont pas avoir le temps. Et lui, quand il fait cette erreur-là, Adan, qui fait cette erreur-là, il va cogiter. Mais il va cogiter dans tous les sens. Bien sûr que sur la deuxième relance, Gary en parle, mais en fait, il est en train de ressasser l'énorme erreur qu'il vient de faire. Donc, il est plus concentré. Quand on sort de sa concentration et qu'on est gardien de but, vous êtes attaquant, vous n'êtes pas concentré, vous mettez la tête, vous mettez à côté, bon, on va se faire... Mais lui, par contre, lui, il ne peut pas se permettre d'être déconcentré quelques instants. Il ne peut pas.
Mais en fait, chez un gardien aussi expérimenté que ça, de cet âge-là, en Ligue des Champions, on peut comme ça, d'un seul coup,
vriller. Ce match-là, quand il prend ce but-là, ils sont premiers de leur groupe, ils ont 9 points, ils font un début de saison en Ligue des Champions exceptionnel, tout roule, je vais me la jouer cool. Le problème, c'est qu'en face, il y en a un qui a 34 ans, qui a faim, qui va les presser. Et d'un coup, vous pouvez le faire 30 fois, ça va passer. Mais une fois, ça ne passe pas. Et à partir de là, il va ressasser cette boulette qui est énormissime parce que c'est le capitaine et c'est le patron. Et après, tout ce qu'il va faire est incohérent. C'est-à-dire qu'il a perdu la tête. Mais ça arrive, vous perdez la tête. Mais surtout, quand vous avez votre capitaine, j'ai joué avec Fabien Barthez, j'ai joué avec des grands gardiens. Et puis il fait une erreur, on est là, on se dit putain, mais il a fait ça lui, pourquoi il a fait cette erreur? Et vous avez tout un groupe qui est chamboulé. Et ça a duré 10 minutes, ils prennent 3 buts.
J'ai pas été subjugué par le soutien qu'il a eu de ses coéquipiers après le premier ou le deuxième but.
Tu t'attends pas à ça?
Ouais, mais j'ai trouvé que les coéquipiers.
T'as pas Coates qui doit être là, n'est pas là aussi.
Voilà, j'ai trouvé qu'il
Pedro Porro n'est pas là aussi.
J'ai trouvé qu'il était seul.
Envie de l'insulter quand même.
Non, mais tu le fais pas.
Ouais, surpris.
Bien sûr que tu as envie de. Mais tu le fais pas. C'est ton gardien, sûr. C'est ton joueur. Et j'ai trouvé qu'il était. Je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un ou deux joueurs qui aillent le voir pour dire bon, écoute, grand, c'est.
Il a 35 ans, tu sais, il a été seul. Il a de l'expérience, 35 ans.
Ouais, mais c'est pas pour ça qu'il n'a pas besoin d'être soutenu quand même.
On a rarement vu un mec craquer dans ses proportions.
Le gardien est souvent seul quand même. Il y avait le film. Sur l'angoisse du gardien de but au moment du pénalty, mais c'est aussi la solitude du gardien de but. C'est un poste bien particulier, donc parfois les joueurs le laissent à sa détresse, parce que lui seul sait vraiment les ressorts.
Il faut bien le connaître, voilà, tu sais si tu dois le voir ou pas.
Moi, ce qui m'a étonné, on en parlait avec Grégory pendant le match, maintenant c'est facile de le dire après, mais on en a parlé pendant, puisqu'on n'était pas en direct à ce moment-là. pourquoi Amorim ne l'a pas remplacé après deuxième but? Pourquoi tu peux pas?
Ça lui fait encore plus de mal.
Situation exceptionnelle, décision exceptionnelle.
Très franchement, il était complet. Parce qu'on parle du deuxième but, il n'y a pas que le placement sur la tête d'Arid. C'est déjà une relance qui met dans les pieds de Gendouzi. C'est-à-dire qu'il te met deux buts quand même, le mec. Et on s'est dit, est-ce qu'il ne faudrait pas...
Dès que ça revenait, il y avait but.
Vous voyez, quand il y a un joueur qui est au bord du rouge, ou quand il y a un joueur qui est au bord du... Parce que gardien, le moindre truc, tu prends le... C'est terminé, il n'y a personne derrière. Et on s'est posé la question avec Patrick.
Le signe que tu envoies, pour moi, pas bon pour l'équipe. Si tu sors ton capitaine, est emblématique. Donc pour moi, c'est compliqué.
Nicolas Turoyal, et ensuite on ira voir Jean-François Pérez.
C'est peut-être la philosophie de Ruben Amorim, le jeune entraîneur du Sporting. C'est pour avoir vu plusieurs des matchs cette saison, c'est une équipe qui prend vraiment des risques derrière.
Oui, c'est vrai.
Donc le gardien en prend, les défenseurs en prennent, et cette prise de risque, elle peut entraîner parfois ses contres. Donc je peux comprendre que Ruben Amorim n'est pas sorti parce que ça fait partie du jeu. Là, c'est un jeu. Ils ont joué, ils ont perdu. Ce qui me surprend le plus, c'est qu'il ait été déstabilisé à ce point-là. Puisqu'ils ont l'habitude de prendre ces risques, ils peuvent accepter aussi ce que ça va entraîner derrière et rebondir tranquillement. Oui, j'ai fait une boulette, mais on va continuer à jouer comme ça.
Quand tu fais la boulette, tu t'arranges jamais que ce soit toi.
J'ai des souvenirs d'autres gardiens qui rebondissent mieux, en Angleterre notamment.
Oui, tu en as.
Mais tu en as. Ça dépend du mec.
Et puis Adani, ça fait partie.
Gary de Jesus, pardon.
Antonio Adan, il a un statut particulier dans cette équipe du Sporting. C'est un vrai leader de cette équipe. Il y a deux ans, dans le Sporting est champion après 19 ans d'attente. Il fait partie de des leaders charismatiques de l'équipe, des leaders qui ont porté l'équipe dans ce titre amené par Ruben Amorim. Donc c'est pas n'importe qui dans cette équipe. Et je soulignais vraiment l'absence de Sébastien Coates, parce que Sébastien Coates dans cette défense centrale, normalement c'est Saint-Just qui joue pas, et Gonçalo Ignacio qui est un peu plus sur la droite. Sébastien Coates, c'est le caractère, l'âme de cette équipe, et le fait qu'il ne soit pas là ce soir, je pense qu'avec lui, Adan n'aurait pas autant sombré. En plus, les deux se connaissent très bien, ils sont très amis. Je pense qu'il aurait trouvé quelque chose pour le remonter un petit peu.
Jean-François Pérez, vous êtes au Stade Vélodrome, et j'aimerais bien savoir comment vous avez perçu cette solitude du gardien de but du stade, parce que souvent on perçoit les choses un peu différemment.
C'était très étonnant parce qu'en effet, il y a l'expérience de ce gardien où on se dit il a pris un but stupide de la part d'Alexis Sanchez. Même si, encore une fois, hein, rappelons-le, ce ne sont pas tous les joueurs qui seraient capables de faire ce qu'a fait Sanchez sur cette action. Il a été bousculé à l'origine à quelques mètres de l'endroit où il va intercepter. Il s'accroche, il se relève, il revient et donc, avec l'aide du poteau, il arrive à égaliser. Donc, le gardien se met un petit peu dedans, mais on se dit qu'à 35 ans, normalement, avec un Sporting qui était quand même dominateur, qui semblait vraiment vouloir punir l'OM au terme des 10-12 premières minutes, tout ça allait finalement rentrer dans l'ordre et ne relever que de l'ordre de l'accident. Et puis derrière, en effet, il y a une relance qui est complètement ratée. C'est étonnant, mais je pense aussi que le contexte de ce match, le fait qu'il ait été joué à huis clos, le fait que les Portugais soient arrivés avec 20 minutes de retard de façon totalement incompréhensible, qu'ils traînent dans les vestiaires au point que les Marseillais s'énervent, le fait que les Marseillais prennent un but tout de suite sur le premier tir, la première action. C'était un match qui a échappé à la raison tout au cours de cette première mi-temps. Et je pense que le gardien est là, s'est laissé peut-être un petit peu emporter par cette espèce d'anarchie joyeuse qui régnait sur le terrain. Il n'a pas réussi à retrouver sa concentration sur le dégagement qui a abouti au deuxième but, où d'ailleurs la tête d'Arit est quand même assez loin. Hein. Je veux dire, il est quand même quasiment au point de pénalty, je pense, au moment où il reprend le ballon décroisé sur le magnifique centre de Klos. Mais le gardien est très très loin à ce moment-là, à 2-1. Derrière, je pense qu'il il ressasse, il gamberge suite à ces erreurs-là. Et puis cette faute de main, d'une certaine manière stupide, parce qu'il est en dehors de sa surface. Mais de notre côté, Nuno Tavares lobe quand même à ce moment-là notre ami Adan. C'est sans doute le troisième but qui se dessine. Et peut-être qu'Adan, à ce moment-là, se dit perdu pour perdu, on va éviter le troisième
c'est
but.
C'est un réflexe.
Donc, c'est une espèce de mauvais réflexe. Exactement. D'un gardien qui finalement se laisse totalement déborder par les événements, par la situation, et qui a sans doute vécu ce soir l'une des pires soirées de sa carrière, vraiment.
Cette Europe 1 Sport, on continue à débriefer cette victoire de l'Olympique de Marseille, 4-1 face au Sporting Portugal.
Europe 1 Sport, la Ligue des Champions.
Virginie Fulpin.
L'OM relancé dans cette Ligue des Champions après sa victoire 4-1 face au Sporting Portugal, d'autant plus relancé que pour l'instant il y a 0-0 entre l'Eintracht Francfort et Tottenham. Si on doit voir ce qui ne va pas, messieurs, autour de cette table, il y a la blessure de Jonathan Clauss quand même. Ça, c'est très embêtant. C'est embêtant pour l'OM, c'est embêtant pour les Bleus aussi, Patrick Julliard.
Oui, très embêtant. Alors, la question est de savoir quel est le statut de Jonathan Clauss dans la tête de Didier Deschamps. Est-ce que c'est un joueur qui est rentré petit à petit dans le groupe et qui a sans doute, sur le dernier rassemblement, gagné sa place, mais qui n'est pas un titulaire en puissance? Ou est-ce que vraiment Didier Deschamps comptait sur lui pour ancrer son schéma à trois axiaux et le mettre en piston droit? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, son absence, si elle se confirme et si elle dure, elle priverait les Bleus du seul véritable spécialiste du poste de piston droit. Et ça doit amener forcément, à mon avis, le sélectionneur, si jamais ça se confirme, hein, j'emploie le conditionnel.
Oui, pour l'instant, on ne sait pas pour combien de temps il en a, tout ça.
Absolument pas, c'est peut-être juste un coup, quelque chose de bénin. Mais bon, dans l'hypothèse où il était absent, ça, je pense que ça va amener Deschamps à s'interroger sur la pertinence de continuer avec ce schéma à trois défenseurs, quitte à faire des choix déchirants dans le secteur offensif. Mais ce schéma qui a été mis en place pour pouvoir faire jouer les trois leaders offensifs, Griezmann, Mbappé et Benzema, est-ce que vraiment il doit être pérennisé, ou est-ce qu'il ne faut pas repenser toute la construction de l'équipe? Ça, c'est une vraie question, mais je pense que Deschamps a quelques cogitations assez importantes en ce moment.
Et pour l'OM aussi, puisque Jonathan Clauss, c'est un des meilleurs Marseillais depuis le début de la saison, Marc Libra.
On a vu son implication sur le match vendredi soir face à Angers, où il est une fois buteur, il est passeur. Maintenant, est-ce que ce n'est pas l'accumulation des matchs? À une époque, on pouvait enchaîner 25-30 matchs. Là, on nous dit qu'après 10-11 matchs, c'est compliqué. Il doit être en tout avec la Ligue des Champions, je crois, une quinzaine de matchs. Avec l'équipe de France, ça doit être 20 matchs. Et les joueurs sont de plus en plus fragiles. Donc, il faut voir aussi de ce côté-là ce qui peut se passer, puisqu'il y a même pas mal de joueurs touchés et blessés à Marseille. Donc là, on n'en sait pas plus. Je pense que pour l'équipe de France, moi, je vais attendre un peu, parce qu'on a quand même un joueur qui a été première sélection. C'était à Marseille, c'était en mars 2022, 6 sélections. Si aujourd'hui, on me dit qu'on attend autour de Clauss pour l'équipe de France, c'est que Deschamps ne connaît pas grand-chose au football. Donc Clauss est un élément qui peut être amené à être en équipe de France. Après, titulaire, je pense qu'il faut aller doucement. Il ne faut quand même pas s'enflammer aussi.
Grégory Schneider.
Si on parlait de lui comme titulaire, c'était un peu par défaut, en fait. C'était pas tant ses qualités que en fait, ceux qui servent que Dubois, on a fini d'y penser. Vous avez Pavard, et alors qui n'en finit
qui
plus.
Qui est rentré ce soir avec le Bayern.
Qui n'en finit plus d'expliquer qu'il se voit plus, il se voit central et pas latéral, puisque dans une défense à 5, pour lui, c'est compliqué.
Latéral, en plus, voilà, alors, dans une défense à 4 à la rigueur, mais certainement
non, mais
pas piston.
Pas à 5, alors il reste Koundé, mais Koundé, c'est un peu pareil, c'est un défenseur central de formation, donc pour mettre un piston qui attaque, c'est compliqué.
On avait vu Coman, qui vient de revenir à l'entraînement,
Coman,
qui est un ailier. En fait.
Coman, tu le mets pas.
Deschamps l'a utilisé comme piston.
Non, mais tu
droit.
Ne le mets. Il est utilisé contre qui? Il est utilisé contre le Kazakhstan au Parc. Tu ne le mets jamais dans un contexte de phase finale de Coupe du Monde. Enfin, en tout cas, connaissant Deschamps, je serais très surpris. Donc, en fait, c'était un peu Clauss par défaut. Parce que tout le monde. Alors, les gens passent leur temps à dire oui, mais Clauss n'a pas le niveau, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Mais qui l'autre?
C'est dur. Hein.
Non, mais on les connaît, ils sont référencés, on peut aller chercher qui joue en espoir. Qui d'autre? On est un peu.
Moukielé. Mais lui aussi, il préfère jouer axe droit que piston ou couloir droit.
Et Moukielé, il joue à peu près un match sur 5 avec le PSG. Donc c'est quand même compliqué.
Évidemment, lui a été testé par Deschamps pour le
coup. Oui, et il était international espoir longtemps, ce qui est quand même le vivier privilégié.
Il y a un vide à ce poste en France qui est terrible. Hein.
Qui est durable, surtout.
Qui est durable, comme à celui de gardien de but, derrière Maignan et Lloris. Il n'y a personne. C'est le vide.
Je voudrais juste revenir sur ce qu'ont dit mes camarades par rapport à, et c'est vrai, ils ont raison, par rapport à Pavard. Mais quand on est appelé en équipe de France et qu'on se plaint ouvertement, ah, moi je ne veux pas jouer là, eh ben, tu viens plus en équipe de France. Tu restes chez toi, tu te reposes et tu regardes la Coupe du Monde à la télé. Non mais j'en ai assez d'entendre ça.
Ou tu boycottes. Je plaisante.
Mais bien sûr qu'il peut boycotter s'il veut. Mais d'être appelé en équipe de France et dire ah ben moi je préfère jouer dans ce rôle-là. Ce genre de discussion, pour moi Virginie, on le dit en tête à tête avec le coach. Mais on ne doit pas le dire dans la presse. Vous comprenez, moi, en équipe de France, je suis mieux là. Et quand on t'appelle en équipe de France, il y en a qui n'ont pas eu la chance d'être en équipe de France. Tu le dis au coach. Et que le coach en parle, c'est autre chose. Mais toi, tu ne le dis pas ouvertement, comme il a fait quelques fois, en disant « Ah, vous comprenez,
Il a répondu à des questions. Il n'a pas pris la parole pour le dire.
Mais dans ces cas-là, tu te tais, tu dis rien.
Tout le monde s'exprime
sur l'équipe de France et après on reviendra rapidement sur l'OM.
Je parle juste du cas Pavard qui a dit « Moi, je ne suis pas à l'aise, je préfère jouer là ». Ok, très bien. Bah, dans ces cas-là, on ne te prend pas, mon garçon.
Je pense qu'il y a deux temps, en fait. C'est-à-dire que Pavard, effectivement, a dit, loin d'une échéance mondiale, il a dit « Voilà, moi, je ne me vois pas là parce que ce n'est pas un poste à laquelle je me développerai. » J'ose espérer qu'au pied du mur, le matin du match contre l'Australie, si Deschamps lui dit « Écoute, mon gars, j'ose espérer qu'il aura une toute autre attitude. Je ne peux pas penser
l'inverse. »
Tu l'as
joué sur le premier match, là, qu'il est en danger, il est en difficulté.
Il a été à la rue tout le match. Okay. Donc on est d'accord. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a deux temps dans le joueur. Par exemple, c'est quelque chose que Rabiot avait dit. Il avait dit « Voilà, moi, si ce serait bien qu'on embauche une sentinelle parce que je ne me vois pas faire ci. » Ça, d'accord. Et le matin d'un match d'une grande échéance, le joueur peut avoir un raisonnement différent et peut accepter d'autres choses. Donc il faut distinguer les deux tempos, il me semble.
On va avoir l'occasion de reparler de l'équipe de France. Je voudrais juste qu'on termine avec l'Olympique de Marseille relancé, mais il ne faut pas non plus s'emballer, c'est ça, Nicolas Touriol ? Parce que vous cherchez tous à dire oui, mais alors attendez, il y a ça comme problème.
Sortons les points pris. Ça fait pour Marseille. C'est pas mal, ce succès. Si le nul tient entre Francfort et Tottenham, tout est relancé. Donc, il y a le match retour dès la semaine prochaine. Il va falloir encore affronter Tottenham et Francfort. Mais moi, j'ai de l'espoir. Quand je vois cette équipe-là, les joueurs d'expérience qui ont été choisis et qui sont au niveau pour l'instant, j'ai de l'espoir. Et puis, j'abandonne pas l'idée que Dimitri Payet puisse redevenir titulaire. J'adore le voir jouer. Donc, faut pas abandonner tout de suite. On n'est que début octobre.
Jean-François Pérez au stade Vélodrome, on n'abandonne pas tout de suite.
Qu'est-ce que vous voulez abandonner, Virginie?
Mais non, bien sûr que non.
Pour Dimitri Payet, vous voulez dire?
Oui, pour Dimitri Payet.
Écoutez,
voilà,
il y a quelques instants encore, il était sous nos yeux, il était en train de faire le décrassage. Vous savez, les joueurs qui n'ont pas joué ou peu joué se retrouvent sur la pelouse pour faire quelques courses, quelques étirements avant de rentrer au vestiaire. Dimitri Payet, le problème, c'est que je ne pense pas qu'il soit suffisamment en forme à l'heure actuelle pour briller sur les terrains. Il a sans doute repris un peu de masse corporelle ces derniers temps, entre les 15 jours de la trêve internationale. Je pense qu'il va falloir qu'il s'entraîne. Je pense que les années passent. On a vu à Angers vendredi soir que, hélas, ça manquait quand même pas mal de spontanéité, d'explosivité, même si la technique, évidemment, sera toujours là pour nous ravir, pour nous enchanter. Mais dans cet OM qui va vite, dans cet OM vertical, dans cet OM qui est pressé de finir ses actions, de centrer, un jeu qui est quand même beaucoup plus basé sur les latéraux et beaucoup moins sur la pénétration dans l'axe, Dimitri Payet, hélas, aujourd'hui, c'est plus compliqué pour lui. Et je ne vois pas pourquoi dans les semaines qui viennent il en irait autrement. Je pense que sa seule chance désormais de retrouver une place de façon stable dans cet effectif, c'est de travailler très très fort jusqu'à la Coupe du Monde et d'attendre ensuite les fêtes de fin d'année et le mois de janvier où évidemment les cartes seront un petit peu rebattues. Mais là, jusqu'à la Coupe du Monde, pendant encore un mois et demi, je pense que Dimitri Payet va devoir se contenter de bout de match en Ligue 1.
Tout le monde est d'accord là-dessus, Patrick Juvéard, ouais, vous le voyez
tout à
pas
fait.
Revenir
moi,
non
moi,
plus.
Je pense
là,
qu'il y a un problème
de...
Au-delà, effectivement, ce qu'a dit Marc tout à l'heure, ce qui est vrai que Dimitri Payet, c'est un joueur qui a toujours été sujet à des grandes irrégularités dans toute sa carrière, même dans les années où il était dans la force de l'âge, vraiment, à West Ham notamment. Mais c'est la saison où il a sans doute été le plus régulier. Il avait même été nommé pour les 30 du Ballon d'Or cette année-là. Mais globalement, c'est un joueur qui a toujours eu des hauts et des bas. Et avec l'âge, les bas sont de plus en plus bas. Et en plus, Tudor n'est pas du tout un entraîneur qui est pour la conservation lente, qui est pour calmer le jeu quand on mène. Tudor, c'est quelqu'un qui veut qu'on continue à agresser l'adversaire, qui veut qu'on pousse, qui veut qu'on mette encore de l'intensité. Payet, c'est plutôt un joueur qui peut être utile si vous devez conserver un score pour calmer le jeu, avoir des bonnes orientations un peu arrêtées, disons. Et en plus... c'est pas un joueur qui peut jouer sur un côté, même en remplaçant. Il n'a pas le coffre pour faire des allers-retours sur un côté le long d'une ligne de touche. C'est pas son poste. Donc ça va être compliqué pour lui.
Mais ils vont avoir besoin de lui quand même.
Mais moi, je pense si je puis me permettre, Grégory, je pense qu'ils auraient plutôt besoin, à mon avis, mais je pense que c'est en réflexion chez Longoria pour le prochain mercato, c'est plutôt d'un avant-centre de puissance, un joueur capable de mettre des buts de la tête, d'être grand, d'avoir de l'envergure. Parce que pour moi, le petit défaut de l'OM...
Un genre de Milik.
Ouais, voilà. Le petit défaut de l'OM, c'est que l'OM a deux formidables centreurs qui sont Tavares et Klos. Et que parfois, les ballons filent au-dessus de la tête des offensifs.
Patrick, ils n'ont pas un rond.
Ils n'ont pas un rond. Est-ce que Longoria, ça l'a déjà arrêté avant un mercato de ne pas avoir un rond? Est-ce qu'il n'est pas spécialiste des prêts, des montages?
C'est vrai.
Donc pour moi, ce n'est pas un argument, ça. Donc je pense que c'est en réflexion, parce que est-ce que Sanchez, après des saisons à 20-22 matchs dont il sort depuis quelques années, est-ce qu'il peut faire
une saison complète
avec double calendrier comme l'OM à 40-45 voire plus? J'ai un doute.
Je vous propose d'écouter Matteo Guendouzi juste après le match, sa réaction.
On savait qu'ils étaient très dangereux, surtout les trois joueurs offensifs.
Ouais.
On sait qu'ils aiment beaucoup combiner entre eux. Et ben, ils nous ont eu dès le début du match sur la première situation. Mais voilà, je trouve qu'après les 10-15 premières minutes, on a fait un excellent match en somme. On a mis l'intensité qu'il fallait. On a eu un très bon pressing, ce qui nous a permis de récupérer pas mal de ballons et de se procurer beaucoup d'occasions. Donc voilà, on a fait vraiment un match complet. C'était important de gagner parce qu'on sait qu'avec les deux défaites, on était mal embarqué. Maintenant, tout est encore possible. On va bien récupérer parce qu'on a un match aussi contre Ajax ce samedi. Mais voilà, c'est une très belle performance de l'équipe.
Matteo Guendouzi au micro de nos confrères de Canal+. 4-1 pour l'Olympique de Marseille face au Sporting Portugal. Je vais remercier Jean-François Pérez en direct du Stade Vélodrome de Marseille.
C'était très calme ce soir.
Oui, forcément. À huis clos, excellente mais très soirée. Agité cette première mi-temps.
Ah oui, totalement irrationnel sur la pelouse. Mais alors, d'un calme olympien, j'ai envie de dire, pour le reste. Excellente fin de soirée à tous.
Merci Jean-François. L'Olympique de Marseille relancé dans cette Ligue des Champions. On va maintenant parler de l'indice UEFA de la France, parce que c'est ça qui se joue aussi avec les rencontres entre les clubs français et les clubs portugais cette semaine et la semaine prochaine.